Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonsoir.
Bonsoir, mademoiselle.
Bienvenue dans le JT Mode. On est là ensemble. Merci beaucoup d'être là. On est là ensemble de 19h à 21h pour le JT Mode, l'actualité de la mode, mais pas que. On interviewe aussi des créateurs, des intellectuels, des créatrices. C'est trop cool, c'est cosy, un peu comme un album de Beyoncé finalement.
Moi, c'est Sarah, alias Itsaru. Certains me connaissent déjà parce que je suis membre du crew de chez Mademoiselle. Et donc, souvent, vous pouvez me voir en live sur Twitch chez Mademoiselle et sur ma chaîne Twitch personnelle. Je suis aussi créatrice de contenu sur d'autres réseaux sociaux tels que TikTok, Instagram et YouTube. Et également, je suis créatrice de prêt-à-porter de luxe pour hommes. Et à côté, je fais de la photographie et je ne suis plus étudiante comme avant. Voilà.
Ouais. Ça avait quand même déjà beaucoup de choses à gérer en même temps, dans ta vie. Et qui est la charmante personne qui se trouve à côté de toi? Est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît?
Bonsoir. Moi, je m'appelle Marvin Mtoumo. Je suis designer. J'écris aussi. Je fais de la poésie. Je fais de la performance. Je suis aussi artiste visuel. Et puis, je mets en scène des pièces maintenant.
Ok, d'accord, très poétique tout ça, hyper enthousiasmant, on a hâte d'en apprendre plus. Et maintenant, est-ce que tu veux bien te présenter s'il te plaît, Florence?
Alors bonsoir, donc moi c'est Florence Abitbol, je viens ici en ma qualité de doctorante et chercheuse, puisque je travaille en philosophie de l'art et en esthétique sur la mode et notamment sur la figure du mort-vivant, voilà.
T'as le droit d'être pluricasquette, hein. T'as le droit de dire tout ce que tu fais dans la vie si tu veux, c'est quoi tes passions, c'est quoi ta recette préférée.
Non, mais alors c'est vrai que, et c'est peut-être aussi pour ça que tu as pensé à moi aujourd'hui, je nourris beaucoup ma recherche avec les films d'horreur, parce que bah, en fait je trouve ça de base assez passionnant comme type de film, et c'est vrai qu'en fait à force d'en regarder je me suis dit, mais il y a une Superman pour ma recherche, et voilà.
D'accord, ok. Bah, c'est trop cool parce qu'on est juste après Halloween, on va pouvoir parler un peu d'horreur, de déguisement, de la notion même de déguisement qui traverse la mode, qui nourrit la mode aussi. En fait, est-ce que la mode c'est une performance? Est-ce qu'on se déguise en une meilleure version de soi-même? Et c'est tout ça dont on va parler ce soir et bien plus encore, plein de choses, parce que même moi je me laisse surprendre par ce qu'on va raconter, même Sarah aussi.
Oui.
Donc voilà, en tout cas dans le chat, merci d'être là, posez vos questions, faites vos remarques, on vous écoute, on vous lit, on va vous répondre. Et je viens de mettre vos Instagram respectifs, Marvin et Florence, dans le chat.
Nice.
Donc c'est trop cool.
Abonnez-vous.
Abonnez-vous en masse, montrez qu'on a de l'influence, genre. Après, on va se faire de la moula et on va quitter Mademoiselle. Non, je rigole. Non, mais ce que je veux dire, c'est que d'abord, avant de commencer la partie interview, parce qu'on est là jusqu'à 21h tous ensemble, on va juste faire un petit tour de l'actualité de la mode. Qu'est-ce qui s'est passé dernièrement dans l'industrie de la mode? Alors, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué, vous, ces dernières semaines, au-delà des articles que j'ai pu écrire sur Mademoiselle? C'est quoi le truc qui vous a marqué dernièrement? Est-ce qu'il y a un truc qui vous marque déjà dans la mode, maintenant que la Fashion Week est passée?
Bah, après, marquer, c'est un grand mot, mais ouais, il y a des petites news qui, où on se pose pas mal de questions, on essaie de comprendre, on essaie de. Enfin, voilà, d'avoir une certaine vision sur le sujet en question. Moi, je sais que ce qui m'avait un petit peu. Bon, marqué, c'est l'histoire avec Jean-Paul Gaultier.
Ok.
Avec l'œuvre d'art, là, le petit souci qu'il a eu, là.
Ok, bah on peut commencer par ça, effectivement, évidemment. Oups, là, pardon, excusez-moi. Oui, alors pensez à mettre vos téléphones en silencieux, contrairement à moi. Et en fait, effectivement, Jean-Paul Gaultier a eu un petit problème avec la justice italienne, mais je sais même pas c'est quoi le fin mot de l'histoire. Je sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire. Je vais arrêter de parler aussi vite. Mais la maison Jean-Paul Gaultier, que tu connais bien d'ailleurs, il me semble.
On en a déjà parlé aussi sur un numéro du JT Mode. quand il y a eu le défilé avec Balmain, pour ceux qui ne se souviennent pas, n'hésitez pas à aller regarder les rediffusions qui sont disponibles sur YouTube.
Ouais.
Et pour que vous sachiez un petit peu aussi qui est Jean-Paul Gaultier, parce qu'on explique également, il me semble, sur ce JT Mode.
C'est le monument français, finalement.
Voilà, c'est ça. Mais...
mais toi aussi, ouais. Tu le connais très bien, Marvin. En fait, je suis trop bête. C'est incroyable. Déjà, est-ce que tu peux nous raconter ta rencontre avec Jean-Paul Gaultier? Est-ce que tu as rencontré l'homme?
Alors,
aussi
j'ai pas rencontré Jean-Paul Gaultier, la personne, mais j'ai eu la chance de faire une collaboration en 2021. Au printemps, donc c'était en mai ou juin, je ne me rappelle plus exactement, sur l'invitation de Florence Tétier, qui est la directrice artistique de la maison, et qui en fait, avec la validation de Jean-Paul Personne, sélectionne des profils pour en fait, perpétuer l'héritage de la maison, poursuivre les conversations, amener aussi des regards qui peuvent être des fois contradictoires avec ce qu'on connaît déjà de la maison, qui peuvent révéler certains aspects des archives ou des problématiques que se pose la maison depuis toujours, mais on va dire en lien avec peut-être une actualité. Et puis bon, là en l'occurrence, m'inviter moi, c'est aussi donner la chance à une personne jeune ce qui est rare en France, de travailler dans des conditions privilégiées et de signer une collaboration avec son nom à côté de celui de Jean-Paul Gaultier, personne, monument, comme on disait avant.
Oui, petite parenthèse, effectivement, parce que Jean-Paul Gaultier est à la retraite. Il a raccroché les ciseaux il y a quelques années maintenant, en fait. Le temps file hyper vite, genre en début 2020, il me semble. Et depuis, c'est d'autres personnes qui prennent le relais, dont Florence Tétier, effectivement, en grande partie. Et attendez, je crois que je peux montrer ce qu'il se passe sur mon écran pour montrer ce que tu as fait chez Jean-Paul Gaultier, si j'y arrive. Je crois que c'est ça.
Ouais, c'est
voilà.
Ça. Mmh.
Du coup, bah là, c'est. Mais qui est cette personne? Waouh. Attends, donc ça, c'est. Est-ce que c'est toi qui as fait ça aussi?
Non. Alors, justement, en fait, c'était un projet qui était vraiment collaboratif. Ouais. Donc, c'était le premier projet après que Jean-Paul Gaultier ait quitté la maison, en fait. Mmh. Et ils ont invité 5 designers, jeunes designers, jeunes marques aussi, à réinterpréter les codes de la marinière. C'était à la demande de Monsieur Jean-Paul. Et puis en fait, c'était une collection capsule, donc c'était du coup du prêt-à-porter, une collection commerciale. Et moi, j'ai fait ça.
Voilà, on est chez nos consoeurs de Marie-Claire avec un portrait écrit par Mélodie Thomas, une journaliste qu'on adore et qu'on embrasse.
Bisous Mélodie.
Bisous Mélodie. Et ouais, donc est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que c'est comme création?
Alors en fait, moi j'ai travaillé sur... en fait, j'ai essayé de détourner l'idée de la marinière et plutôt prendre le terme littéralement. Donc plutôt que d'imaginer le vêtement marinière, le vêtement breton blanc avec des rayures bleu marine, mais d'imaginer un marin au féminin. Et j'ai fait aussi à travers ça un hommage à mes origines caribéennes, guadeloupéennes. J'ai imaginé un corset là qui est aussi voilà la pièce un peu emblématique,
les synchroniques
voilà,
qu'on imagine
sur Jean-Paul Gaultier. Et du coup là l'idée c'était de détourner cette idée du synchronique et de l'amener plus vers cette idée d'un coquillage du coup c'est aussi toute une narration autour de la corsaire, de la sirène, une hybridation aussi à travers le motif entre le motif de la vague et l'ornementation que peut apporter le coquillage. Et ensuite on a en boucle d'oreille un trompe-l'œil d'un coquillage.
Oui, ouais,
voilà.
D'accord, ok, bah hyper beau. Tu peux nous rappeler l'année où t'as fait ça?
J'ai fait ça il y a un an et demi, donc c'était en 2021.
D'accord, ok. Là, peut-être qu'on voit mieux la boucle d'oreille. Ok.
Voilà.
D'accord. Et donc, depuis ce succès, différents designers chez Jean-Paul Gaultier, notamment maintenant pour les collections haute couture, il invite un ou une designeuse à réinterpréter les codes de la maison. Récemment, c'était Glenn Martins qui officie aussi chez White Project, chez Diesel. Là, le prochain, c'est mon chouchou absolu, c'est Aïda Ackerman. Et entre-temps, il y a eu Olivier Rousteing, dont on a parlé dans le dernier JT Mode, comme Sarah le mentionnait tout à l'heure. Et donc c'est assez intéressant, mais c'est pas du tout ce qui nous occupe aujourd'hui. ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est les démêlés avec la justice italienne. En gros, Jean-Paul Gaultier, la maison Palom, parce qu'il est à la retraite encore une fois, a réinterprété un code très Gaultier aussi. C'était Gaultier, il adore questionner la reproduction des œuvres, notamment des œuvres d'art patrimoniales, de s'en inspirer, de jouer sur la question de la contrefaçon. Et aussi, du coup, il imprime parfois des imprimés sur des vêtements en s'inspirant de tableaux, en fait. Et du coup, là, c'est ce qu'il a refait la maison Jean-Paul Gaultier pour du prêt-à-porter, en reprenant certains tableaux académiques italiens, dont certains qui sont exposés à la Galerie des Offices, qui est un musée italien où il y a des chefs-d'œuvre de la peinture italienne, évidemment. Et en fait, la Galerie des Offices n'a pas apprécié et elle a porté plainte. donc voilà, il a notamment reproduit la Vénus de Botticelli. Donc c'était en vente en avril 2022 sur le site de Jean-Paul Gaultier, parce qu'en fait ils font des drops de prêt-à-porter comme ça assez régulièrement. Il y avait aussi Les Trois Grâces de Peter Paul Rubens et la création d'Adam de Michel-Ange, enfin ce genre de choses. Et voilà, du coup, voilà. Là, j'ai fait un superbe montage. Je sais pas si vous pouvez le voir. Merci d'apprécier, s'il vous plaît. J'ai pris 3 heures sur Photoshop. mais voilà. Mais moi, je trouve ça hyper intéressant. Je sais pas ce que ça vous évoque, Florence. Qu'est-ce que tu penses de cette collection,
moi,
de cette affaire?
Donc, ayant lu ton article, et connaissant très très bien l'œuvre de Walter Benjamin, enfin, franchement, c'est genre au centre de la cible, genre là. L'œuvre d'art a l'air de sa reproductibilité technique, on est là, et genre en fait, il y a deux trucs qui se superposent.
Attends, là je crois qu'on a largué la moitié des gens. C'est qui Walter Benjamin?
Walter Benjamin, oh putain, non, je me transforme en prof de philo.
C'est pour ça que t'es là. Hein.
C'est aussi une profession à moi d'ailleurs. En fait, Walter Benjamin, c'est un penseur de la fin du 19e, début 20e, et en fait, il a fait plusieurs travaux, enfin tout son travail est relativement épars en fait, et à sa mort on a regroupé un petit peu ses notes, et il y en a un qui est assez complet, c'est un tout petit volume d'ailleurs, c'est l'œuvre d'art à l'ère de sa reproductibilité technique, et en fait ça parle de, en fait, à partir de la fin du 19e siècle et après, sont apparus deux médiums qui n'existaient pas avant, la photographie et du coup juste après le cinéma, qui se caractérisent en fait par leur reproductibilité. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des œuvres qui n'existent que parce qu'elles sont reproductibles. C'est-à-dire que la photographie, on la produit en reproduisant une pellicule. Et ça se reproduit, et à l'infini. Et il n'y a pas d'original, contrairement à tous ces tableaux, les fameux Botticelli, qui existent parce que y en a qu'un, en fait, et qu'il est exposé. Et du coup, c'est aussi intéressant, chose que Benjamin n'aborde pas, mais qui est quand même un peu en creux dans son œuvre, c'est qu'en fait, la mode aussi, c'est un médium qui est reproductif, notamment le prêt-à-porter, on fait des vêtements en série, en fait. Et du coup, pour moi, il y a deux choses qui se superposent. Une œuvre d'art avec un aura, en fait, quelque chose d'unique, qu'on respecte, qu'on regarde dans un musée avec une certaine distance, un certain respect, en fait, qui s'est formé avec les siècles. Et en même temps, un vêtement qu'on pourrait porter, moi du Jean-Paul Gaultier, je le porterai pas tous les jours, hein, j'y ferai attention, voilà tout ça, mais je le porterai, je l'aurai même la peau, je danserai dedans, enfin je ferai des choses normales en fait.
Du quotidien.
Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, il y a ce clash entre ces deux choses, et c'est hyper intéressant parce que en fait, la Vénus de Botticelli et tous ces tableaux-là, en fait, avec l'ère l'avancée de la modernité, ce sont devenus des choses reproductibles, en fait. Et c'est marrant que la galerie de Florence attaque spécifiquement Jean-Paul Gaultier quand on descend dans 2-3 allées commerçantes de Florence et on trouve plein de reproductions de ces tableaux-là.
Dans les boutiques de touristes.
Oui, voilà. Et puis, même à Florence, à Rome, à Milan, enfin, dans toutes
partout.
Les villes italiennes. Et du coup, je me dis, et puis même, au-delà de ces boutiques-là où ces reproductions sont faites de manière pas forcément... souvent on voit que dans ces boutiques-là, ce qui est vendu aux touristes, parfois c'est du made in China. Enfin, c'est pas vraiment fait des reproductions faites par des artistes qui font des reproductions de tableaux. Mais en même temps, les musées, c'est les premiers aussi à avoir des boutiques, à vendre des reproductions un petit peu jolies, un petit peu sur du beau papier, etc. Et à se faire de l'argent dessus. Alors, j'entends l'idée que, en fait, Jean-Paul Gaultier, ils auraient préféré qu'il négocie un cachet, etc. Mais dans l'idée, l'œuvre d'art, enfin, aujourd'hui, elle est déjà accessible à tous, que ce soit au musée ou dans les rues de Rome.
Ou sur Internet.
Sur Internet, tout simplement.
Sur Internet.
Et du coup, je suis là, bon, ben, c'est bien hein, de vouloir défendre l'art et son aura et tout, mais... Bah en fait, en vrai, c'est déjà plus la réalité de l'œuvre d'art. Quoi.
Mais est-ce que c'est pour défendre l'art ou est-ce que c'est pas juste se dire « Ah, Jean-Paul Gaultier, il y a de l'argent, du coup, on va l'attaquer. »
Ça, ouais, c'est ce que je me suis dit aussi.
Je pense que défendre l'art, c'est la raison, genre,
affichée.
Avancée et genre, officieusement, genre, bah, ouais, peut-être qu'il y a un business à faire, quoi.
Ouais, petit point juridique rapide, hein. Vous inquiétez pas, ne partez pas. Sur ce que dit la loi italienne et ce que dit la loi française en matière de reproduction d'œuvres d'art. Alors, d'après le Code des biens culturels italiens, l'utilisation d'images relevant du patrimoine italien doit faire l'objet d'une autorisation spécifique et donner lieu au paiement de droits. Donc, tu peux pas prendre un Botticelli, en faire un t-shirt et dire « Allez, ciao, je le vends sur Etsy, Vinted et Depop ». Non, faut que tu demandes d'abord à la Galerie des Offices, en l'occurrence. Ouais. Et en France, c'est un peu différent. Il y a le droit d'auteur et le droit moral. Tout ça, c'est expliqué dans l'article que je viens d'envoyer dans le chat. Mais en gros, les œuvres d'art tombent dans le domaine public 70 ans après la mort de l'auteur. Du coup, un Botticelli serait déjà tombé dans le droit d'auteur. Et on n'aurait pas le droit de faire complètement ce qu'on veut avec, puisqu'il subsiste le droit moral. Attendez. Oui, voilà. Du coup, tu peux pas faire un porno avec un Botticelli, par exemple,
ouais.
Ou un artiste français, parce qu'en fait, il y a une dimension morale qui est inaliénable. Donc, même 100 ans après la mort de l'artiste, tu peux pas te servir d'une œuvre pour faire n'importe quoi, quoi. Il y a certaines choses à respecter, effectivement. Est-ce que ça vous évoque d'autres choses, Sarah et Marvin? Je voulais ajouter un truc sur ce dossier, Jean-Paul Gaultier.
Bah, c'est que c'est pas la première fois que des créateurs s'inspirent d'œuvres d'art. Et après, je pense que là, on en a entendu parler parce que ça a été médiatisé aussi également. Enfin voilà, ça en a parlé et on se dit peut-être que ils font sur Jean-Paul Gaultier parce que derrière ils veulent un petit chèque, mais je pense qu'ils en font aussi à d'autres marques, mais on n'est pas forcément au courant et voilà.
Effectivement, mine de rien, ça permet aussi de faire un coup de pub pour cette institution culturelle. Donc, j'imagine qu'attaquer Jean-Paul Gaultier plutôt qu'une maison moins connue ou un designer moins connu, c'est déjà s'assurer que la personne a de l'argent et aussi s'assurer une attention médiatique parce que, mine de rien, il y a plein de médias qui ont fait des papiers sur cette histoire qui est, somme toute, assez anecdotique. Mais,
c'est clair. Surtout que, en fait, ce qui est assez étrange, c'est que, finalement, j'ai l'impression que c'est... des personnes qui se font un peu la guerre sur qui a le droit ou pas sur les images. Le Botticelli en question, je parle de la personne, il est plus là pour témoigner et dire s'il est d'accord que Jean-Paul Gaultier imprime son tableau sur une résille élastique pour qu'il soit vendu 200, 300 ou 400 balles, je sais pas exactement. Et ça vient aussi questionner notre rapport à la mode et comment en fait on a... Après je pense que c'est un peu dans la démarche de Jean-Paul Gaultier, c'est que finalement quand il fait ça, parce que c'est pas nouveau là, c'est vraiment l'idée d'une réédition, c'est quelque chose qui est déjà dans son héritage, mais quand ils font ça aujourd'hui, ça vient aussi désacraliser en fait cette œuvre d'art devant laquelle on devrait devant laquelle on devrait garder une certaine distance, qu'on devrait venir apprécier en tant que tel dans le musée. Et qui justement n'est pas reproductible comme tu l'expliquais, qui du coup rend cet objet encore plus sacré parce qu'il est unique, rare et très cher.
Ouais.
Mais là maintenant, Jean-Paul Gaultier qui se fait de l'argent là-dessus, moi je me dis, en fait ça me pose plein de questions différentes et qui sont assez contradictoires. Je me pose la question de l'appropriation, du coup est-ce qu'on a le droit de s'approprier toutes les images, est-ce que toutes les images nous appartiennent? Maintenant on est à l'ère d'Instagram, du screenshot, donc...
Ouais.
Ça va vite
et ouais, c'est plus
facile. Et qui a le droit, enfin à qui appartient une œuvre?
Voilà, à qui appartient cette œuvre? Puis finalement, lui, il nous rend cette œuvre, enfin lui, la maison, la marque nous rend cette œuvre accessible. On peut la porter contre nous, sur notre propre peau. Et c'est aussi, je trouve, un geste qui a l'air banal, mais d'un coup, peut-être parce que c'est une maison de luxe et parce qu'il y a tout ce débat autour, ça vient re-questionner le geste en question.
Mais moi, je suis étonnée quand même que Jean-Paul Gaultier se prend un procès par rapport à ça, parce que juridiquement, ils n'étaient pas au courant que en Italie, il y a une certaine loi par rapport aux droits d'auteur, à l'appropriation, enfin culturelle. Je sais pas, il y a pas.
Si, il me semble que de mémoire, en fait, la galerie des Offices a envoyé un premier courrier à Jean-Paul Gaultier pour les avertir qu'ils ne pouvaient pas continuer à faire ça, avant même la mise en vente des pièces. Mm-hmm. Le courrier est resté sans réponse. Et du coup, c'est pour ça que la galerie des Offices a choisi d'attaquer.
Okay.
Mais je pense que Jean-Paul Gaultier a un service juridique en béton, et je pense que soit il s'y attendait et il ne s'inquiétait pas plus que ça, soit ils ont peut-être réglé ça. À l'amiable sans qu'on soit au courant, et de toute façon au moment où cette affaire est sortie dans les médias, le drop était déjà plus disponible à la vente, en fait. Je pense que tout avait déjà été vendu et ils sont passés au drop d'après, donc cette affaire vraiment c'est vraiment une goutte d'eau dans un océan, quoi. Donc c'est vraiment dérisoire, je pense, mais je pense qu'ils ont même vraiment, la galerie des Offices, je pense qu'elle a vraiment fait ça juste pour la com, en fait.
Ouais.
Parce je pense qu'ils espéraient rien.
Moi, je trouve qu'au fond, c'est comme s'ils se positionnaient... Enfin, c'est schématique, hein, ce que je dis, mais c'est comme si eux disaient « Nous sommes propriétaires, c'est notre droit en tant qu'institution nationale, muséale, représentant des œuvres d'art. Vous n'avez pas le droit de le faire. » Et ça questionne, en fait, quelle vision, au fond, ils ont de la mode et du vêtement. Est-ce que c'est moins bien? Est-ce que c'est parce que c'est pas eux qui l'ont validé, et dans ce cas-là pourquoi ce serait eux qui valideraient ou pas, comme tu dis, service de Jean-Paul Gaultier, et s'ils ont été avertis avant le lancement du drop, il y a eu des contacts directs ou indirects, donc c'est pas une question de la faute à qui, mais c'est pourquoi eux se positionnent comme ça si tard, en fait.
Oui, oui, effectivement, ça pose plein de questions. Tout à l'heure, on convoquait Walter Benjamin. Mm. Je pense qu'il y a une notion qu'on n'a peut-être pas évoquée encore, mais c'est la notion de kitsch, en fait. Et c'est ça qui est très propre à Jean-Paul Gaultier aussi, c'est que, ok, c'est un acteur du luxe, la maison Jean-Paul Gaultier. C'est un acteur du luxe aujourd'hui en France et dans le monde d'ailleurs, mais c'est aussi le fondateur Jean-Paul Gaultier, quelqu'un de très populaire. C'est un créateur, c'était une pop star, en fait, du temps de son activité. Il est encore vivant, rassurez-vous. Et voilà, c'est vraiment une pop star qui habillait Madonna, qui habillait plein de stars aussi. Et lui-même était très connu, très apprécié du grand public. Plein de gens qui pouvaient pas forcément s'acheter du prêt-à-porter ou du luxe Jean-Paul Gaultier. Et quand il fait ça, il interroge aussi ce qu'on considère comme étant digne de l'art et de la culture élitiste, et digne de la culture de masse, en fait, de la culture populaire. Ouais. Et c'est ça que je trouve hyper ironique dans cette histoire, c'est que c'est typiquement Gaultier, en fait. C'est genre toutes les questions que pose Jean-Paul Gaultier, le fondateur, et la maison Jean-Paul Gaultier perpétue son héritage aujourd'hui. Toutes ces questions-là se retrouvent dans cette affaire-là, et je trouve que la Galerie des Offices, en l'occurrence, soit c'est un mauvais coup de com', je pense que c'est un mauvais coup de com', parce qu'en fait, c'est ne pas comprendre ce qu'a essayé de faire Jean-Paul Gaultier... Ouais. La maison, et aussi continuer à se poser en censeur, en autorité qui édicte si oui ou non vous avez le droit de faire ça ou pas. Nous, on dit ce qui est de l'art, ouais. Et vous n'êtes pas de l'art, en fait, vous êtes commerciaux.
Et c'est ça, et en vrai, qu'est-ce qui est plus kitsch, qu'est-ce qui est plus commercial? Un t-shirt en mèche avec la Vénus de Botticelli. Bon, moi, je trouve ça stylé, mais c'est mon avis.
J'adore le kitsch.
Ou une tasse avec la Vénus de Botticelli dessus.
Qui est dans la boutique de souvenirs de la Galerie des Offices.
Voilà, ou pas. Enfin, bon, on va pas se projeter, mais voilà. Et moi, je préfère le top. Je le trouve plus signifiant.
Je pense que c'est pas le même prix.
Oui, c'est vrai.
Après, ils ont une longue histoire de... Enfin, je me rappelle, on en parle, hein, ça me rappelle plein d'autres choses qui se sont passées avec la maison... quand j'étais déjà bien plus jeune, mais ils avaient eu, après la mort de Amy Winehouse, ils avaient fait une collection couture hommage, et la famille avait s'était plaint du fait qu'ils aient célébré une certaine époque de sa vie qui était en fait le moment de sa vie où elle était alcoolique, dépressive, toxicomane, boulimique, et où du coup cette coiffure emblématique et ce look en fait correspondait à son mal-être. Et donc ils ont reproché à la maison de glamouriser la Amy Winehouse de la fin qui souffrait beaucoup, et ils ont eu aussi des problèmes au moment de leur collection avec les imprimés Vasarely.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Là, ils ont fait une collection Frida Kahlo qui avait aussi fait parler à l'époque. En fait, je pense que c'est aussi... Enfin, là, aujourd'hui, dans le contexte, pour moi, je trouve, d'un Instagram et de toutes ces images et de aussi ces objets, tous ces produits dérivés qu'on voit des œuvres d'art partout autour de nous, ça fait plus tellement sens. Mais je pense que ça avait bien plus d'impact et c'était peut-être moins une goutte d'eau dans l'océan il y a 10 ans quand ils avaient la même démarche. Là, aujourd'hui, je trouve qu'en fait, on se demande vraiment pourquoi ce musée s'énerve parce que ça paraît vraiment absurde.
Il y a plusieurs remarques dans le chat. Notamment l'Audi78 qui dit « Ce qui est drôle, c'est que des enseignes comme Bershka, Stradivarius font comme Jean-Paul Gaultier, mais ils n'ont pas l'air d'avoir eu de procès au cul. »
C'est clair.
Non, on ne sait pas, en fait.
Non, mais je pense qu'il n'y en a pas eu. Mais ouais, je t'écoute.
C'est pas médiatisé, en fait. C'est qu'il y a de fortes chances qu'il y a eu des procès, mais c'est pas médiatisé parce que eux, ces genres d'enseignes, ils ont tout le temps des procès. Donc, si on devait à chaque fois énumérer les procès qu'ils avaient, médiatiser tous les procès qu'ils avaient, ces enseignes-là, en fait, on va jamais s'en sortir parce qu'ils en ont tout le temps. Parce que c'est des marques de fast fashion qui font beaucoup de copies. Enfin, il y a beaucoup de procès qui les collent au cul, vous inquiétez
c'est
pas.
Clair.
Voilà, si je dois être crue. Mais oui, non. En fait, ça, comment vous expliquer ? En fait, ça donne pas envie de lire le l'article ou de cliquer sur l'article quand on dit « Ah, Bershka en procès pour copie ». Bah ouais.
Yes, we know.
on le sait, en fait, oui. Oui.
Très juste.
Comme H&M ou Zara ou plein d'autres enseignes. Là, c'est Jean-Paul Gaultier, c'est autre chose. C'est pas qu'on para pour moi, on peut pas les mêmes... On peut pas mettre au même niveau, voilà.
Bah, pour rejoindre vos deux points, Sarah et Marvin, c'est ça me rappelle la collab de, enfin c'est pas une collab, enfin si peut-être, c'est Shein qui a fait toute une collection inspirée de Frida Kahlo avec plein de d'images de Frida Kahlo, de portraits réinterprétés de Frida Kahlo et les mannequins elles-mêmes grimées en Frida Kahlo.
Oui.
Et vraiment c'était affligeant quoi.
Après tout c'est autre chose un peu.
Ouais,
ce
c'est autre
là,
chose.
Là c'est vraiment un autre. Là c'est là ce qui a été reproché c'est pas forcément la même chose que ce qui est reproché à Jean-Paul Gaultier ou
sûr.
Aux autres enseignes. Là, c'était vraiment plus... j'avais l'impression que c'était vraiment plus de... En fait, ça dénigrait totalement la personne Frida Kahlo, en fait, en elle-même. Et sachant qu'aussi qu'il y avait de l'appropriation culturelle parce que c'était des femmes qui n'avaient rien à voir avec la culture de Frida Kahlo, qui étaient habillées d'une certaine manière, comme si c'était un déguisement, entre guillemets. Mmh. Enfin, voilà, c'était vraiment plus perçu comme ça. Je sais pas si je peux mettre...
Est-ce que j'ai vraiment envie de montrer des images de Chine?
Oh my god, non. En
okay,
fait,
d'accord.
Je sais pas que... en fait,
si tu peux,
mais voilà.
Attends, à chaque fois que je fais une faute à Frida Kahlo, j'ai très honte.
Voilà. Mais moi, après, je peux... Parce qu'en fait, il me semble que
c'est très
les
méta,
proches de Frida Kahlo qui se sont plaints, en fait.
En fait, c'est très compliqué l'histoire de Frida Kahlo. Je vous invite à écouter un podcast génial qui s'appelle Vénus et puis l'étale... un podcast génial qui s'appelle Vénus, c'est pile était. J'arrive pas à le dire. C'est pile était telle la chatte.
Pour moi, comme ça, ils auraient retenu.
Voilà.
Voilà. Ouais, vous allez
c'est
retenir. Et du coup, c'est justement, ça montre à quel. En fait, dans ce podcast, tout est expliqué sur en fait, la transmission des droits de Frida Kahlo et comment ces droits ont échappé à la famille. Et en fait, il y a une fondation qui n'essaye pas du tout de préserver les droits et le patrimoine et les valeurs de Frida Kahlo, l'artiste, et juste à faire du profit en fait, sur son image et son patrimoine. Donc voilà, c'est assez intéressant de... Enfin, c'est assez affligeant de voir ça, quoi.
En fait, c'est surtout qu'en ce moment, Shein a une certaine image assez... dégradante.
Depuis toujours.
Depuis toujours. Mais même là, actuellement, enfin, voilà, il y a trop de trucs qui se passent. Et on voit qu'ils essayent de un peu dorer leur image en, avec des communiqués, des, une communication sur les réseaux sociaux. On voit les affichines sur, dans la rue, alors qu'avant, c'était pas du tout le cas. Hein. Et le fait qu'en fait, ça soit affilié avec Frida Kahlo, qui est quand même une grande artiste, là, c'est, en fait, c'est ça qui a bloqué aussi un petit peu les gens. Enfin, pour eux, Chine ne doit pas s'affilier en fait, à Frida Kahlo, c'est pas possible.
Bah, c'est marrant de leur part de s'approprier l'apparence d'une artiste activiste, anticapitaliste, féministe,
exactement, en fait,
décoloniale, alors
qui,
que leurs valeurs, en fait, finalement, ce qu'ils font, ils sont tout à l'inverse de ça.
Exactement.
Des femmes majoritairement racisées, qui payent pratiquement jamais ou pas du tout ou très mal.
Ouais.
Et ils profitent de nouveau juste d'une esthétique qui
dit, c'est ça, en fait, c'est les valeurs de Frida Kahlo. Elle n'est pas connue, elle n'est pas forcément connue que pour son art, mais aussi par rapport à ses actions qu'elle a fait politiquement parlant ou quoi que ce soit. Et en fait, voilà, l'affilié à Chine, c'est vraiment pas du tout le... Ouais. Non, ça va pas. Ça va pas.
Brand.
Ouais. Bah, effectivement, icône anticapitaliste, anticoloniale, pardon, et aussi icône de la lutte contre le validisme. Enfin, c'est à tout... Rien n'allait. Bref.
C'est...
Ok. Sur une toute autre note... Toute autre note, pardon, je suis fatiguée aujourd'hui. Il s'est passé plein de trucs, j'ai envie de parler de... Enfin, je vous propose qu'on parle soit de Johnny Depp qui a défilé pour Rihanna, soit de Lena Situation qui a créé des sneakers pour Adidas, c'est la première française à le faire, soit des déguisements d'Halloween. De quoi vous voulez parler? Dans le chat, dites-nous. Est-ce que vous avez une préférence, Florence, Marvin?
En fait, ils aiment tous les articles, ça va être compliqué, donc je vous laisse.
Moi, il y avait un article que j'aimais trop, c'est La jupe diesel. Mais c'est vraiment anecdotique, donc on peut ne pas en parler. Je vous la montre rapidement. Je sais pas si vous avez vu cette histoire. En gros, donc Len Martin, ce que j'adore, que je répète, c'était dans le JT Mode, qui est un designer belge qui est maintenant à la tête de Diesel. Il a sorti cette pièce qui est, iconique. À votre avis, une jupe, une ceinture iconique selon Florence. En tout cas, lui, il l'a fait défiler portée comme une jupe, mais sur la silhouette de droite, vous pouvez voir qu'elle est un peu portée par-dessus une espèce de legging collant, donc c'est pas forcément une jupe à porter comme ça, Jean Valère. Il a réitéré cette idée-là, la collection d'après. Donc, ce que je vous montrais juste au-dessus, c'était automne-hiver 2022-2023, donc là, c'est du printemps-été 2023, je pense. Et en fait, là, il y a quelqu'un qui l'a acheté sur TikTok, en disant, mais je comprends pas, enfin, cette jupe est pas du tout pratique, je n'arrive pas à la porter. Et du coup, c'est archi drôle. Sachant que sur le site de Diesel, elle est vendue comme une ceinture, en fait. Mais elle a voulu faire comme dans le défilé, elle a porté en mode jupe, et elle se rend compte que c'est un peu galère. Donc elle se plaint de la qualité de la matière, qui est très caoutchouteuse pour du cuir, et surtout du velcro, la tache, qui fait cheap, selon elle.
Ouais, oui.
Et donc elle raconte qu'elle a essayé
du diesel, elle n'achète pas du dur. Enfin, il faut que... Non, mais il faut quand même qu'on parle de l'histoire de la marque. Il faut, il y a un contexte.
Après, dans le contexte, on va rappeler le prix de la pièce. Je crois que c'est
700
euros. Ouais.
Bon, les gens s'enfusquent toujours des prix à la hausse, mais quand il faut justement, quand il faut acheter chez Shein la copie de cette jupe à 10 balles, ils le font. Donc, faut qu'on questionne aussi notre rapport à la consommation de la mode, parce que, enfin, moi, c'est quelque chose.
Bah, en fait, les gens pensent que parce que le prix est haut, donc forcément la qualité elle suit, alors que ça fait un moment qu'on le répète, non.
Ouais.
Voilà, c'est oui, c'est triste à dire, mais non, en fait, le prix, c'est pas parce qu'il est haut que la qualité est haute aussi. Enfin, voilà, c'est voilà.
Après, ce qui me fascine, c'est qu'après ce TikTok, elle en a fait plein d'autres où elle vit sa meilleure vie avec la jupe. Qui est une ceinture.
Après cette plainte.
Ah ouais, c'est stylé, hein.
Après,
oui,
c'est
clair,
oui, non, mais c'est TikTok, hein, c'est comme ça, les autres,
elles
aiment
bien. Ça va, elle a l'air d'un mouf dedans, quand même. Ouais, mais elle dit que ça remonte
quand
elle s'assoit.
Mais il faut pas s'asseoir avec, voilà, c'est tout.
Ouais. Non, mais oui, et surtout, faut pas reproduire le stylisme que vous voyez sur les défilés, en fait, c'est pas forcément fait pour être pris tel quel.
Voilà, aussi.
Voilà.
C'est beaucoup pour l'esthétique, hein, on va pas se mentir. Hein.
Ouais. Bah, c'est ce qu'ils appellent sur les défilés, enfin, des pièces images, quoi. C'est des choses qui vont asseoir... Bah, l'image de la marque, des pièces iconiques. Parfois, ça va juste être un petits détails, mais genre Prada, ils ont compris que leur petit triangle en métal, ça explosait, donc maintenant ils le mettent absolument partout. Ouais. Et ça, enfin, ça fait partie de l'image de la marque. Mmh. Limite, ils pourraient le vendre à, je sais pas, 240 euros en broche. Je pense que ça partirait comme des petits pains.
C'est les trucs qu'ils ont le mieux en plus.
Bah, oui, les logos énormes.
Et pareil, là, il fait une pièce qui va marquer les gens, qui fait parler d'elle. Est-ce qu'elle est portable? Est-ce qu'elle est pas portable? Bah, au final, non, mais il peut la décliner à l'infini. Les gens kiffent. Ça apporte de la consistance à l'image, dans l'imaginaire des gens par rapport à Diesel, en fait. Mmh. Ça renvoie à quelque chose de concret, à un vrai vêtement.
Mmh. Mais justement, j'ai l'impression qu'on s'attend de la part des marques et de la part des designers, à ce qu'ils fabriquent des objets portables. Et cette question de la portabilité, ouais, elle revient en permanence. Et cette question de la portabilité, elle touche autant à la question du prix et la question de la... est-ce que c'est ergonomique? Est-ce que mon pantalon a deux jambes pour que je puisse marcher dedans? Et en même temps, on est dans une époque où la mode est devenue un art à part entière.
Mmh, ouais.
Il y a une force de frappe en termes de communication qu'aucun autre médium artistique n'a.
Ouais.
Enfin, je veux dire, oh, là, on a parlé de Botticelli, mais je suis sûr que n'importe qui sur le chat est capable de citer au moins 5 marques ou 5 designers et n'est pas forcément capable de citer 5
artistes du Quattrocento,
artistes contemporains qui fait de la sculpture, de la vidéo ou de la peinture, ouais, je ne sais pas quoi.
Ça, c'est vrai.
Et du coup, il faut aussi se rendre compte que c'est un médium qui est en train d'être... qui devient un vrai mode d'expression, y compris pour les maisons. Glenn Martens, c'est... Il développe sa silhouette, il développe son identité, son style. Et donc là, on se questionne sur la portabilité. En vrai, dans l'histoire de la mode, il y a tellement eu de débats sur est-ce que le corset, c'est OK? Est-ce que les talons, c'est OK? Ah, cette jupe, elle a trop de tissu et puis c'est la guerre. Enfin, il y a toujours des débats comme ça. Donc, bon, c'est pas pour dire on s'en fout, aussi. Mais c'est un peu
non,
genre...
Non, mais just let it be, quoi.
Laissez les gens créer. Et puis après, personne ne vous force à acheter une jupe diesel c'est à clair. 300 ou 400 balles.
795.
Voilà, c'est pire que ça.
Non, mais partez en vacances, c'est mieux.
C'est de sages paroles.
Je vous montre juste la jupe sur le site de Diesel pour vous dire que je ne mens pas, elle coûte 795 euros.
Wow.
Voilà.
Elle couvre un peu les fesses. Hein,
un petit peu.
Ça descend un peu.
Bah, en fait,
ça, c'est une jupe pour pécho. Hein.
C'est une jupe pour être pécho au dedans aussi.
C'est mais, cher pour pécho. Mais...
C'est hyper cher pour pécho. Et surtout, ça s'arrête à quelle taille? Enfin.
Ouais, je suis en train de me demander au niveau de la taille, c'est comment?
Non, c'est taille unique.
Bon, taille... Ah oui, il y a un scratch.
Taille unique. Voyons,
hein. 34. Taille 34, en fait.
Voilà, c'est ça.
Oui, le scratch, mais il est visible si tu fais plus que du 36.
Bah,
donc,
ouais.
Voilà. C'est à tes risques et périls, quoi.
Ah, bah, non, là, mais c'est sur un vrai sujet.
Ouais, mais c'est une pièce, édito, quoi. Anyway, okay. C'était un petit tour de l'actu rapide. Sauf si vous voulez qu'on parle vite fait de Gunilla Perriana.
Ben,
qui est dans
ouais,
le titre.
Hein.
Mais voilà. Longue histoire courte. Rihanna a une marque de lingerie qui s'appelle Savage X Fenty, où elle fait défiler le gratin de ce qui se fait pour des castings aujourd'hui. Elle a redéfini le standard avec une grande diversité des morphologies, des races sociales, des expressions de genre et même des identités de genre. Du coup, elle a complètement ringardisé Victoria's Secret, par exemple, qui était jusque-là le mastodonte du défilé de lingerie. Avec ses grands masses du male gaze.
Ouais. Et c'était quand même vraiment David contre Goliath. Hein.
Mmh. Ouais, une nouvelle entrante sur le marché de la lingerie. Ouais. Elle arrive alors que, disons les termes, sa maison Fenty faite avec LVMH a complètement floppé.
Oui.
Et ben, à côté de ça, sa marque Fenty, sa marque de lingerie Savage X Fenty, elle a cartonné. Enfin, voilà. Et du coup, ça a très, très, très bien marché. Et du coup, ça fait plusieurs défilés qu'elle fait avec, qu'elle diffuse sur la plateforme de Amazon Prime Video. Et en fait, là, pour le dernier défilé, ça va être X Fenty Volume 4, du coup, la quatrième édition de son défilé annuel de lingerie. Elle a invité plusieurs célébrités, dont Johnny Depp, qui vient de sortir de son procès avec Amber Heard, enfin de ses multiples procès. T'es fan de Johnny Depp?
Non, moi, je suis encore dans le déni de cette histoire. Je n'arrive pas à commute ces deux informations ensemble. Je suis pas du tout fan de Johnny Depp.
Ok. Non, mais.
You're a
cunt. I fucking hate you. Cunt. Ah oui. Oups, c'est pas bon, excuse-moi. You're a fucking cunt! This is not happening! Trigger warning. Violence verbale. qu'on entend, attendez, il frappe contre des meubles dans la bande son.
Oui.
Voilà, donc c'est plusieurs personnes qui sont.
Alors, on est d'accord que ça, c'est le show du coup de Rihanna.
Oui, en fait, c'est j'aime pas dire memes, mais en gros, c'est. Les gens ont repris la vidéo de là où ils défilent dans le défi de Rihanna, ça va être trendy.
Ouais.
Ils ont mis des soundboards, en fait, de toutes ces violences verbales qu'il fait quand il frappe, etc.
Des pièces qui sont sorties de son procès, en fait, qui ont été mis dans le
domaine. Oui, c'est ça.
Wow. Voilà, parce qu'en fait, Amber Heard, donc. Pour un contexte, Amber Heard et Johnny Depp ont connu plusieurs procès concernant des procès en diffamation, en fait. Mm. Mais parce qu'en fait, il n'y a pas tellement de procès par rapport aux violences conjugales. Et en fait, justement, plein de gens, effectivement, sont insurgés de la présence de Johnny Depp sur le défi de Rihanna. Mais il y a aussi plein de gens qui ont défendu sa présence en disant « Ah, mais en fait, c'est la preuve que Rihanna, elle soutient Johnny Depp et qu'elle soutient, en fait, un survivant de violences conjugales. » Du coup, il y a les deux camps qui s'opposent. C'est extrêmement complexe comme affaire.
Mais en fait, chaque défi de café, elle a toujours une polémique. C'est fou, ça. Ouais. Tout le temps.
Parce que la polémique...
La dernière fois, c'était Coucou Chloé, non ?
La dernière fois, ça va être Jackson T, c'était qu'elle a utilisé une musique.
Ouais.
Contenant des
mixé
qui contenait en fait des hadiths et en gros c'est des paroles prophétiques et c'est du blasphème, voilà.
Ouais, c'était son défilé de 2020. Vous voyez tout ce que je fais depuis tout à l'heure. effectivement, voilà, dans la bande son il y avait ça qui était blasphématoire, comme vient de le dire Sarah, et voilà, là c'est la nouvelle polémique. Mais du coup, on n'est pas obligé de s'étendre sur le sujet. Hein. Si vous avez quelque chose à ajouter.
Ouais.
En fait, déjà, qu'est-ce que ça apporte d'inviter quelqu'un comme une célébrité tout court ? Et pourquoi Johnny Depp ? Genre, dans le chat, si vous avez des réactions, on est à l'écoute aussi.
Bah, dans tous les cas, même s'il y a des réactions, elle va même pas y répondre ou quoi que ce soit. Hein. C'est bon. Hein.
Okay.
Ça a été filmé, ça a été tourné, ça a été envoyé à Amazon Prime. Ils vont pas cuter pour enlever.
Non.
Voilà, hein, c'est.
Ouais, bah, donc, ça y a cuté en vrai.
Oui. Il a été enlevé de YouTube et de Vogue Runway.
Ouais, mais après, c'est autre chose. Je trouve que c'est pas le même boycott que Johnny Depp. Johnny Depp, en plus, je sais même pas si on peut appeler ça un boycott en vrai. Je sais même pas si on peut dire qu'il est réellement boycotté au vu de là où on le voit apparaître, etc.
Bah là, il est pas cancel s'il est ça, ce show.
C'est ça.
Il est pas du tout cancel. Donc là, il a fait plusieurs concerts où il performait avec ses groupes de musique ou pour des amis à lui. Il a aussi un second projet de réalisation, parce que la dernière fois qu'il avait réalisé un film, c'était dans les années 90. Là, il va faire un nouveau film, ça vient d'être signé. Et aussi, il a été renouvelé pour son contrat chez Dior. Pour l'eau de parfum sauvage.
Wow.
C'est bien nommé par rapport à tout ça. Donc voilà, tout va bien pour lui. Même les ventes du parfum Dior que Johnny Depp représente ont augmenté depuis les procès. Donc ça dit bien aussi. En fait, je dis ça avec beaucoup de cynisme, mais c'est pour vous poser la question. En fait, ça nous interroge en tant que société aussi sur qu'est-ce qui se passe après un tel procès. Est-ce que ça. Les hommes bénéficient encore de beaucoup d'impunité ? Est-ce que aussi ça permet de surfer sur un succès, puisque en fait, puisqu'il est cité partout, référencé partout, est-ce que ça crée pas de la publicité aussi pour les produits auxquels Johnny Depp est affilié? La preuve, je sais pas si c'est une preuve, on va pas parler de preuve, mais on va dire en tout cas que c'est un signe, c'est signifiant le fait que les ventes du parfum que représente Johnny Depp augmentent suite au procès.
Ouais.
Mais de toute façon, ce procès, il a été un peu. Il indique aussi que finalement après tous les scandales MeToo, il n'y a pas eu peut-être autant de prise de conscience que ce qu'on pensait. Quand on voit la façon dont elle est, enfin la différence de traitement médiatique de Amber Heard et de Johnny Depp, c'est flagrant. Je pense que là. Bon, on n'a pas besoin de s'étendre, tout le monde a compris de quoi je parle.
Ouais.
Je vous rappelle le petit numéro en cas de violence conjugale, c'est le 3919. Il y a aussi un site gouvernemental qui s'appelle Arrêtons les violences. Voilà, donc les ressources sont là, vous pouvez les voir. Et on n'a pas besoin forcément de s'étendre davantage sur le sujet. Hein. C'est un sujet qui est extrêmement épineux.
Ouais.
Mais effectivement, il y a une libération de la parole, mais il n'y a pas eu de libération de l'écoute. Et surtout, il n'y a pas eu de prise de responsabilité, en fait, de la part des États, de la justice. Il y a eu plein de manquements.
Enfin, pardon, mais du coup, là, la question se pose, la responsabilité des marques, en fait.
Effectivement, des marques et des gens qui sont à la tête de ces marques-là. Rihanna étant elle-même une victime de violence conjugale, une survivante de violence conjugale, ça pose encore plus de questions. En fait. Donc,
bah après, en plus, on le voit sur l'article que tu as écrit. Oui, c'était toi qui l'as écrit. Oui, voilà.
J'ai fait tous les articles de Mademoiselle. Je suis la mode qui Mademoiselle.
Le souci qu'elle a eu avec Chris Brown, et au final, elle fait des feats avec lui sur des musiques, sur des chansons. Est-ce que réellement c'est étonnant ce genre de move de la part de Rihanna? Je pense pas.
Ouais, mais elle est anapologétique, donc voilà.
C'est franchement, vrai c'est en fait, même si ça fait déjà 10 ans, ça fait longtemps que ces musiques sont déjà sorties, etc., en question que juste, je vais pas forcément donner les titres, mais en fait, je suis pas étonnée. Je suis pas étonnée que Rihanna réagisse ainsi et que Rihanna fait ce genre de décision, de move, en fait, par rapport à Johnny Depp. C'est que ça peut être Johnny Depp ou même quelqu'un d'autre. Hein. Vraiment, je suis pas étonnée.
Parce que moi, en fait, je suis surprise et je n'arrive pas à faire rentrer ces deux informations ensemble, Johnny Depp sur le défi Fenty, parce que justement, je suis pas... Enfin, j'écoute un peu sa musique, mais comme ça fait longtemps qu'elle a pas sorti de trucs, ben, j'en écoute moins.
C'est sûr, mais...
Et du coup, pardon, excuse-moi. En fait, en gros... Je suis là, genre, mais je ne comprends pas ces deux informations. Et pour moi, je l'associais, je la plaçais dans quelque chose d'un peu plus inclusif, justement, comme elle faisait avec sa marque de maquillage, comme elle fait avec sa marque Savage X Fenty, où genre, le sizing, il est incroyable. Ouais. J'ai jamais vu ça. Et d'un coup, il y a ce truc qui, pour moi, fait tâche, en fait.
Ouais.
Enfin, arrive comme ça, comme vraiment contraste, quoi. Et du coup, je suis là, genre, mais... Moi, je m'y connaissais pas. Maintenant que tu le dis, ça fait sens, effectivement. Et peut-être qu'effectivement, en regardant plus son parcours et peut-être éventuellement ses prises de position, je comprendrais mieux. Mais du coup...
En fait, le truc, c'est... En fait, il faut vraiment le savoir parce que les musiques en question, elles n'ont pas non plus buzzé, ou elles n'ont pas eu de prime ou quoi que ce soit.
Franchement, au moment où c'est sorti, c'était hyper discuté, tu vois. Enfin, déjà,
C'était pas autant médiatisé parce qu'à cette époque-là, les réseaux sociaux, c'était pas encore ça, il me semble.
Ouais, après, je suis biaisé parce que j'ai travaillé déjà dans les médias, j'étais déjà journaliste, donc j'étais déjà sûrement plus informé que la moyenne des gens, mais même Rihanna, c'était une pop star hyper sur le devant de la scène médiatique, et cette affaire de violence conjugale était extrêmement médiatisée, surexposée.
Oui.
Et en fait,
oui,
elle est ressortie avec Chris Brown après.
Ouais.
Et ensuite, elle a fait ces sons-là. Du coup, en vrai, tout le monde en parlait.
Oui,
tu vois,
même il y a eu des interviews qui sont sorties des deux côtés où il y avait encore cette le trait de la peine pour l'autre. L'autre, lui souhaite bon courage, bon truc, choses, etc. Enfin, toutes ces choses-là. C'est pour ça que quand j'ai moi aussi sur le coup au début, je me suis dit attends, mais qu'est-ce qu'il fait là dans ce défilé là Après, je me suis rappelé que quand même Rihanna, elle a fait quand même pas mal d'erreurs auparavant déjà dans les autres défilés avant, par rapport à la polémique qu'il y a eu l'année dernière. Je me suis dit, pourquoi pas une autre cette année? Et je me suis dit aussi sur la façon comment cette décision est prise, etc., la moralité derrière, au vu de comment ça s'est passé avec Chris Brown, ça m'étonnait pas trop. Genre, en gros, je ne suis pas forcément trop surprise de la part de cette femme-là, en fait.
D'accord.
Je sais pas si vous voyez ce que je veux
dire. Peut-être que c'est un positionnement pour dire je fais ce que je veux.
Oui.
Et je continue à faire ce que je veux, même maintenant avec la cancel culture.
Voilà,
et...
c'est ça. Même si la société dit que.
La société change, mais moi, je fais ce que je veux. Je fais mes bails, je fais mon business.
Et je pense que c'est l'un des défilés qui a été le plus commenté de l'histoire de Savage X Fenty. Donc peut-être que ça va lui rapporter aussi des ventes, tu vois. Enfin, il y a l'Audi78 qui dit dans le chat, j'ai l'impression que malheureusement, les bad buzz, quelle que soit la raison ou le domaine, n'ont pas vraiment d'impact ou sont très vite oubliés. Et je sais plus si on en avait déjà parlé ici, mais c'est le cas pour plein de designers. Je pense à Dolce & Gabbana, par exemple, et leurs multiples affaires, homophobes, racistes, citez-le, ils l'ont fait. Donc voilà. Assez de temps d'antenne pour ça. On va parler de choses plus positives ou pas, de choses plus horribles quelque part, vite fait, d'Halloween, histoire de faire une transition vers toi, Florence.
Oh là là.
Voilà, donc est-ce que, dites-nous dans le chat si vous êtes déguisé pour Halloween, et si oui, en quoi, ça nous intéresse. Et juste vite fait, pendant que tu te présentes, je vais faire défiler les gens qui sont déguisés pour Halloween, la célébrité.
Hey. Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.